Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Guilhem Meij. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sebo.
Bonjour.
Après la démission de Theresa May, le 10 Downing Street se cherche un nouveau locataire. Ils étaient 10 candidats en lice à se soumettre à la volonté des députés conservateurs. Mais Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, semble partir favori. Il a d'ailleurs viré en tête hier lors du premier vote à bulletin secret au cours duquel il a rassemblé 114 voix sur les 313 députés conservateurs. Le grand artisan de la victoire du Leave lors du référendum de 2016 a lancé sa campagne mercredi dernier, expliquant ne pas viser un Brexit sans accord, tout en se disant prêt à le déclencher en dernier recours. Alors dans l'hypothèse où il serait choisi comme chef des Tories, pourra-t-il obtenir de nouvelles concessions de la part de ses partenaires européens? Y sont-ils disposés? Ou choisira-t-il un divorce sans accord? Et comment surmonter les obstacles structurels qui rendent cette rupture aussi difficile, notamment cette question de la frontière irlandaise qui continue d'interroger sur l'unité du Royaume-Uni? Alors, Royaume-Uni ou désuni d'ailleurs, se cherche un nouveau leader pour évoquer ce sujet. Sophie Louswarne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Université Picardie Jules Verne, et puis auteur notamment d'un livre sur David Cameron. Alex Taylor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste européen, auteur d'un ouvrage sur le Brexit, Brexit, l'autopsie d'une illusion, qui vient de paraître en mars dernier chez Jean-Claude Lattès. Avant d'évoquer toutes ces questions sur la Grande-Bretagne, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Mali.
Une nuit, mes vaches sont parties vers le village des Dogons. Le matin, mes deux garçons sont allés les chercher en moto. Ils ont tué mes fils et ils ont volé les animaux et la moto.
Si nous partons, les Dogons vont nous tuer.
Pourquoi ils vont vous tuer?
Parce que c'est la guerre.
Les conflits ont démarré seulement, les pays se sont éloignés de nous. On ne les voit pas, ils ne nous voient pas.
Mais avant,
on faisait tout ensemble, nous étions des amis.
Alors pourquoi ils ont quitté ce village?
Parce qu'il y a eu des conflits intercommunautaires, des unes qu'on connaissait, leur mère, leur père, qui étaient armés et qui partaient attaquer des gens, prendre leurs biens et partir.
Voilà, conflit entre Peul et Dogon, on va en parler ce matin. Bonjour Coralie Pierret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes correspondante pour RFI à Bamako au Mali depuis 2018. C'est vous qui avez recueilli ces reportages, ces témoignages pardon, qu'on vient d'entendre. Alors je rappelle pour nos auditeurs, en début de semaine, on a appris que 95 personnes avaient été tuées dans un village dogon de Sobanékou, au centre du pays. Alors finalement, le bilan a été revu à la baisse avec 35 morts, dont 24 enfants. Mais c'est un nouveau drame dans cette région, en proie à des violences depuis des mois, avec notamment ce massacre de 160 peuls en mars dernier dans un village, le village d'Ogossagou. C'était l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente du Mali, qui avait entraîné la démission du Premier ministre, qui a été remplacé depuis. En hommage aux victimes, il se trouve que le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Après ce nouveau massacre, Coralie Pierret, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dit que c'était l'unité du pays qui était menacée, qu'il était question là de la survie de la nation. C'est aussi grave que cela? L'enjeu, c'est l'unité et la survie de la nation malienne?
Bien sûr, la situation est grave dans le sens où elle ne s'améliore pas, où le conflit s'embrase depuis, vous avez dit plusieurs mois, moi j'irais même plus loin, depuis plusieurs années, depuis 2 ou 3 ans, on a des conflits entre villages, Peul et Dogon, dans cette zone du centre du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta parle d'unité de la nation, de survie de la nation. Il l'avait déjà dit en mars cette année, quand il y a eu ce massacre que vous avez rappelé, le massacre d'Ogossagou. Donc effectivement, la situation est grave. L'unité de la nation, c'est des paroles politique, bien sûr, mais en tout cas, le conflit est là, le conflit est présent et le conflit ne s'améliore pas.
Mais quand il dit ça, il sous-tend l'idée qu'il pourrait y avoir une guerre civile. C'est aussi ça qu'on entend. C'est un risque?
C'est un risque, je ne sais pas, honnêtement, guerre civile, je ne sais pas. En fait, là, pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans une zone... Le Mali, ça n'échappe à personne, est un pays en guerre. est un pays en guerre depuis déjà plusieurs années. On a le conflit au nord Mali et puis on a le conflit dans le centre du Mali qui est assez différent finalement de ce qui se passe dans le nord du Mali. Ici, entre les Peuls et les Dogons, c'est une zone où finalement peut-être la présence des armes, peut-être la présence aussi du Burkina Faso qui n'est pas très loin, la déstabilisation de cette zone sahélienne qui finalement font ressurgir des tensions qui existaient déjà auparavant. Donc, guerre civile, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces tensions étaient là déjà avant. Et aujourd'hui, elles entraînent des massacres.
Oui, et puis il y a aussi peut-être un élément qu'il faut mettre dans le paysage, c'est l'émergence d'un certain nombre de groupes djihadistes notamment. En 2015, est apparu dans cette région-là, dans le centre du Mali, la Katiba Massina, qui est un groupe djihadiste qui est mené par un prédicateur qui s'appelle Amadou Koufa. Quel lien est-ce qu'on peut établir justement entre l'émergence de ce groupe djihadiste et les violences entre Peul et Dogon auxquelles on assiste depuis des mois, peut-être même plus, peut-être des années, disiez-vous?
Alors, en fait, on a, ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'on a des Peuls et des Dogons qui vivent en communauté depuis de longues années. Qui, pour simplifier, on a les Peuls qui sont plutôt les éleveurs d'un côté, et puis on a les Dogons qui sont plutôt les cultivateurs. Donc autour du foncier, on avait déjà un certain nombre de conflits. Et puis s'est rajoutée une strate, en fait, j'appelle ça comme ça, on peut l'appeler comme on veut, mais s'est rajoutée finalement ces groupes djihadistes qui sont présents, qui sont des groupes armés, qui se sont plus ou moins unifié avec ce prédicateur dont vous avez parlé, qui s'appelle Amadou Koufa. Il faut rappeler que ce prédicateur Amadou Koufa est un prédicateur qui appartient à l'ethnie Peul et qui, depuis un certain nombre de mois, joue sur son appartenance communautaire pour recruter. Il faut bien comprendre que dans le centre du Mali, on est dans des zones qui sont complètement isolées, qui sont très difficiles d'accès pour tout à chacun, pour les ONG, pour tout le monde. Et donc, on a finalement une sorte de conflit intervillageois. Il y a véritablement un amalgame qui est important à souligner, c'est que on l'a dit, Amadou Koufa est originaire, appartient à l'ethnie Peul, et donc on a presque des villageois qui font cet amalgame Peul égale djihadiste et donc égale ennemi à combattre. Donc évidemment, la présence de ces groupes djihadistes a embrasé ce conflit.
Alors dans la région, on trouve aussi des groupes, je mets des guillemets, d'autodéfense, qu'on appelle le plus souvent là-bas des chasseurs, qui se sont créés officiellement pour se protéger justement de ces groupes djihadistes. Ils se sont formés autour de ce moment-là, 2015-2016. Vous avez eu l'occasion justement de rencontrer certains de leurs membres. Qui ils sont? Qu'est-ce que vous avez compris de leur motivation? Et est-ce qu'ils se défendent seulement des groupes djihadistes ou est-ce qu'il y a d'autres choses?
Alors, il faut un peu reclarifier les choses, c'est-à-dire que vous avez parlé de chasseurs. Alors, effectivement, on a d'un côté ces groupes djihadistes avec Amadou Koufa. Ils sont pas forcément très unifiés, ces groupes djihadistes. Il y a aussi beaucoup de groupes de bandits ou de délinquance qui s'affilient comme ça à un groupe djihadiste mais qui sont pas forcément très motivés par les convictions religieuses et la doctrine politico-religieuse que Amadou Koufa mène. Et puis de l'autre, on a ces groupes armés, ces groupes d'autodéfense, ces milices qui sont pas uniquement des chasseurs. Il y a les milices chasseurs, la principale milice est celle qu'on appelle Dana Ambassagou. Dana Ambassagou, c'est une milice de chasseurs Dogon. Mais on a aussi des groupes d'autodéfense Peul qui, village par village, se sont armés, se sont organisés, mais c'est des milices qui sont pas forcément identifiées et identifiables, et donc difficilement contrôlables. Et donc il faut bien comprendre qu'on n'a pas uniquement ces chasseurs qui vont dans des villages et qui se protègent de ces groupes djihadistes, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a d'un côté ces groupes djihadistes qui sont là, qui menacent, qui font peur aussi, parce que dans cette région, on l'a entendu tout à l'heure avec les témoignages, il y a une vraie peur. Tout le monde est terrorisé, en fait. Qu'on soit Peul ou Dogon, on est terrorisé. On a ces milices. Dans un premier temps, il est vrai qu'elles se sont créées pour se protéger des groupes djihadistes. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, les milices ne font pas que se protéger, elles attaquent aussi.
Alors, c'est là où je voulais en venir justement, Coralie Piret, et je reviens donc à cet événement, cette séquence, cette dernière séquence meurtrière. Est-ce qu'on a une idée de qui pourrait être à l'origine de cette attaque-là ? Est-ce que ce serait plutôt les groupes djihadistes, des groupes d'autodéfense ? J'ai l'impression que toutes les pistes sont envisagées, mais que on penche plutôt pour celle de groupes djihadistes. Est-ce que je me trompe, Coralie Piret ? Est-ce qu'on peut essayer d'y voir plus clair maintenant qu'on sait quels sont les acteurs en place ?
Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que les témoignages remontent plutôt des... Enfin, les habitants nous disent que c'est des peuls d'à côté ou voilà, des gens qui étaient en fait dans le village d'à côté qui sont venus attaquer, des gens qui connaissaient exactement comme ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi. Pour l'instant, il est vraiment trop tôt pour dire c'est tel ou tel groupe qui a organisé l'attaque. Pour l'instant, on ne sait pas. Et comme avec le massacre d'Ogossagou en mars, c'est pareil, tous les regards étaient tournés vers la milice dont j'ai parlé tout à l'heure, la milice Dogon d'Anna Ambassagou. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse véritablement à cette question. Est-ce que c'était quelque chose de préparé, quelque chose de organisé par cette milice d'Anna Ambassagou ? Pour l'instant, on ne sait pas.
Que fait l'État malien pour essayer de contrôler, de neutraliser ces groupes, et en particulier ces groupes d'autodéfense ? Pour les djihadistes, peut-être que c'est plus compliqué, on va évoquer ensuite le rôle de Barkhane et des Nations Unies, mais s'agissant de ces groupes d'autodéfense, que peut faire et que fait l'État malien ?
Alors, s'il y a bien une chose où tout le monde est d'accord, c'est que dans cette zone, dans la zone où il y a ce conflit armé, ce qu'on appelle communément le pays Dogon, s'il y a bien quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est que l'État est absent. Et ça, depuis très très longtemps finalement. Il y a assez peu d'écoles, il y a assez peu de services de justice, même les maires, les autorités locales ne sont pas toujours dans leur circonscription. Donc il y a une véritable absence de l'État. Donc,
mais enfin, l'État a quand même mis en place des processus de démobilisation, alors peut-être que c'est sans effet, mais...
Alors, ça, si vous voulez, c'est assez récent. Là, je vous parle de quelque chose qui est plus ancien. Donc, effectivement, l'État, après le massacre de Ogossagou, a tenté de réagir en voulant dissoudre cette milice d'Anna Ambassagou, la milice Dogon. Aujourd'hui, est-ce que cette prise de position politique est suivie des faits ? La question reste ouverte. La milice existe toujours et
il y a des gens qui sont démobilisés, qui ont rendu les armes ?
Alors, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un processus de DDR, donc démobilisation, désarmement et réinsertion. C'est quelque chose qu'il faut bien différencier du DDR du Nord, qui concerne pas les mêmes problématiques, pas les mêmes groupes. Aujourd'hui, 5000 personnes semblent être inscrites dans ce processus de DDR, mais personne à l'heure actuelle n'a déposé les armes.
Vous le disiez, il y a au fond des conflits latents entre Paul et Dogon, autour du foncier notamment. Est-ce qu'on essaye, j'allais dire par le bas, de réorganiser un dialogue justement entre ces différentes communautés ? Je crois que la MINUSMA a mis en place un processus de médiation. Est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens se parlent ? Est-ce qu'on peut en tirer un premier bilan ?
Comme je vous ai dit au début...
La MINUSMA, pardon, c'est la mission onusienne au Mali.
La mission, oui, voilà, des casques bleus. Alors effectivement, il y a des tentatives de médiation. La MINUSMA n'est pas la seule à tenter de faire cette médiation. Par endroit, les gens se reparlent, mais à partir du moment où on a des groupes armés qui sont là, qu'ils soient djihadistes ou non, qu'ils soient Peul ou Dogon, des groupes armés qui sont en présence et qui font la loi, parce qu'il n'y a pas d'État véritablement fort dans cette zone, il est très difficile pour les communautés de se reparler. Aujourd'hui, on assiste à des sortes de checkpoints complètement officieux qui se mettent en place. Un checkpoint tenu par un village Peul empêche les Dogons de passer et inversement de l'autre côté. Donc, on peut pas vraiment parler de dialogue. Il y a des tentatives, mais pour le moment, elles ne portent pas leurs fruits.
Il y a des tentatives, mais est-ce que tout le monde est sur la même ligne, justement, au sein du gouvernement et au sein de l'État ? Parce que j'ai cru comprendre, alors là, on a entendu Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a exhorté le gouvernement malien, tous les acteurs, à engager un véritable dialogue intercommunautaire. Et il semble qu'un certain nombre d'initiatives aient déjà été prises par le passé, mais que peut-être on soit revenu en arrière et qu'on les eût suspendues, et notamment et je mets ça au conditionnel, parce que le président malien aurait choisi de les suspendre. Est-ce que je me trompe? Est-ce que effectivement le président malien a réellement la volonté politique, je passe sur les moyens, mais la volonté politique de mettre en place ce dialogue intercommunautaire, ou est-ce que c'est pas si clair que ça?
Alors, il faut préciser que ce dossier, on va l'appeler comme ça, ce dossier Centre du Mali était, dirigé, ou en tout cas, par l'ancien Premier ministre qui a démissionné il y a peu, qui s'appelait Soumaïlou Boubaï Maïga. Donc, sa démission a entraîné une nouvelle nomination, etc. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, que ça a retardé un petit peu les choses, parce que temps de s'emparer de ces dossiers, etc.
Sur la MINUSMA, justement, donc la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, c'est ça le nom exact, qui est en place depuis 2013. Il se trouve qu'elle arrive à échéance là à la fin du mois. Le président malien, a demandé à ce que non seulement elle soit poursuivie, mais qu'en plus on réévalue les choses et qu'on monte justement en tension, en pression, en présence sur cette force-là. Alors j'imagine qu'il n'y a pas tellement de doute sur le fait qu'on va poursuivre la mission, mais est-ce qu'on va réévaluer et est-ce qu'on va effectivement augmenter les moyens qui sont déployés?
Alors, c'est la question. Pour l'instant, le mandat n'est pas renouvelé, donc pour l'instant, la question, encore une fois, reste ouverte. On le saura à la fin du mois.
Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable? Compte tenu du fait que finalement, quand on fait un peu les comptes aujourd'hui, ni l'ONU, ni les soldats français ne sont en capacité de garantir la sécurité au Mali.
Pour l'instant, jusqu'à il y a peu, la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, n'avait pas de mandat dans le centre du Mali. Hein. C'était vraiment pour le conflit au nord. Et finalement, personne n'intervenait dans le centre du Mali. Depuis quelques mois et un an, la mission de maintien de la paix a ouvert un bureau à Mopti, qui est la zone, qui est la ville principale du centre du Mali. Et dans son mandat, il y a la protection des civils. Aujourd'hui, on a certains États aux Nations Unies qui ne souhaitent pas continuer de renouveler ce mandat, ou en tout cas qui veulent véritablement faire des coupes budgétaires, parce que c'est une mission qui coûte énormément d'argent. Donc, est-ce que on va recentrer les efforts sur le centre du Mali faire des coupes budgétaires dans le nord, ou est-ce qu'on va laisser le centre du Mali un petit peu comme ça, et puis on va se concentrer sur le nord pour d'abord régler la question du nord, pour ensuite régler la question du centre? Pour l'instant, personne ne le sait.
Et en attendant, les gens se déplacent pour justement fuir cette insécurité. On a un tout petit peu une idée des déplacements là qui sont provoqués par cette situation au nord du Mali. Où est-ce qu'ils vont, ces gens-là? Où est-ce qu'ils se retrouvent? Qui est-ce qui les aide? Dans quelles conditions ils vivent?
Alors, pour le moment, il n'y a pas de camp de réfugiés comme on pourrait l'avoir au nord, notamment. Les gens se déplacent en fait d'un village à l'autre. Encore une fois, il faut bien insister sur le fait que c'est des zones très très isolées. Hein. Il est très difficile, notamment pendant la saison des pluies, de traverser cette zone en voiture. Il faut emprunter des motos, etc. On a aussi des groupes djihadistes qui mettent des mines un petit peu partout, donc il est très difficile de se déplacer. De partir en fait de cette zone. On est comme emprisonné en fait dans cette zone-là. Donc quand il y a un conflit qui se déclare à Ogossagou par exemple, bon, les villageois vont aller dans le village d'à côté et puis vont aller dans un autre village comme ça. C'est des déplacements en fait internes à la région. Il y a quelques populations qui se déplacent vers la capitale, d'autres qui vont vers le Burkina Faso voisin, mais on n'a pas une idée véritablement de l'ampleur de ces déplacements, parce que ça reste très interne. Ce qui est sûr, c'est que certaines ONG, après le massacre d'Ogossagou, parlaient de environ 60 000 déplacés, c'est-à-dire 30 fois plus qu'un an auparavant.
Et d'ailleurs, vous en aviez rencontré justement de ces déplacés autour de Bamako, justement. On peut retrouver l'ensemble de vos reportages, Coralie Pierret, sur le site de RFI. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci infiniment.
Merci.
Kana mbuko fanta fala dedo kana nini e. Nibad me fala tão no lado. E bade tu me digi tá no digi dogo. Me bade a ule de no lado.
C'est avec Fallo, un très joli titre d'un musicien malien qu'on quitte la région pour se diriger du côté de la Grande-Bretagne. Royaume des Unis cherche un nouveau leader, c'est notre titre ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, puisque Theresa May a annoncé sa démission, le processus de désignation du futur chef du gouvernement est en cours. Hier, les députés conservateurs se sont prononcés sur les 10 candidats au poste. 3 ont été éliminés et les votes à bulletin secret vont se succéder jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2 qui seront départagés par les militants du Parti conservateur. Mais pour l'heure, celui qui fait figure de favori, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, partisan d'un Brexit dur, Boris Johnson.
After 3 years... Après 3 ans et 2 échéances repoussées, nous devons quitter l'Union le 31 octobre. Et nous devons trouver une meilleure solution que l'accord de sortie actuel, qui a été rejeté 3 fois par le Parlement. Et pour être très clair, je n'aspire pas à une sortie sans accord. Je ne pense pas que nous en arriverons là. Mais s'y préparer sérieusement et activement, c'est agir en responsabilité. C'est seulement si nous avons le courage de nous préparer à ce scénario que nous arriverons à convaincre Bruxelles et que nous obtiendrons l'accord dont nous avons besoin. Parce qu'ils ne veulent pas plus que moi d'une sortie sans accord. Et nous n'obtiendrons aucun résultat si nous donnons l'impression de vouloir encore retarder l'échéance. Un report de plus signifierait une défaite et l'arrivée de Corbyn. Si nous repoussons encore les délais, nous perdrons les prochaines élections. And we
kick the bucket. Voilà, donc Boris Johnson, le grand artisan de la victoire du Leave lors du référendum de juin 2016, qui n'a jamais semblé aussi proche de prendre les commandes de l'exécutif britannique, ce qu'il vise depuis des années. Est-ce qu'il va occuper justement ce 10 Downing Street? Et d'ailleurs, qui sont ses concurrents? Et surtout, que pourra-t-il, par rapport à Theresa May, est-ce qu'il pourra faire mieux? Nous évoquons toutes ces questions avec Sophie Loussouarn et Alex Taylor, qui sont nos invités. En partenariat le vendredi, comme chaque semaine, donc avec Le Monde, Marc Sémo. Marc, ça fait bientôt 3 ans maintenant que les Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union Européenne. On a eu un certain nombre d'atermoiements, de difficultés. On a pensé à un moment que peut-être Theresa May allait parvenir à le mettre en œuvre. Elle a réussi cet accord avec ses partenaires, mais elle n'a pas réussi à l'entériner. À le faire entériner par les parlementaires. Et aujourd'hui, on voit que les Britanniques attendent un nouveau Premier ministre. On est toujours incapable finalement de dire quand... comment ce Brexit aura lieu, ni même s'il aura lieu, hein, on n'est pas sûr de rien en fait. 3 ans après, on est au point de départ.
On est au point de départ. Et ce qui se passe n'est pas très rassurant. Il y a déjà Donald Trump à Washington et nous risquons bientôt d'avoir à Londres son quasi-clone, et pas seulement à cause de la coiffure. Boris Johnson, tu l'as dit, s'est affirmé comme le grand favori pour succéder à Theresa May et cela n'a vraiment rien de rassurant. Hein, en juin 2016, après le référendum, il avait reculé devant l'obstacle. Il avait refusé de devenir Premier ministre pour gérer la sortie de l'Union pour laquelle il avait mené la campagne la plus démagogique qui soit. Lui-même, pourtant, avait jusqu'au dernier moment hésité entre le Leave et le Remain, et ça a été en sentant un peu l'humeur de l'opinion qu'il a fait ce choix d'être un partisan d'un Brexit dur. Alors à l'époque, il avait peur de devoir assumer ses responsabilités avec une équation impossible, elle l'est encore plus aujourd'hui, il le sait, et les blocages qui ont porté Theresa May à jeter l'éponge n'ont pas changé. Alors Bruxelles se refuse à rediscuter l'accord, laborieusement négocié pendant plus de 2 ans, juste un sursis jusqu'au 31 octobre. Aucune majorité n'est possible, apparemment, à Westminster, ni pour un Brexit sans accord, ni pour un Remain. Et la plus ancienne des démocraties européennes, des grands pays, a sa plus grave crise depuis des lustres. Jamais le fossé entre le pays légal et le pays réel n'a été aussi fort, parce que ça va être les 120 000 adhérents du Parti conservateur qui vont décider du futur Premier ministre. Mais il faut rappeler que le Parti conservateur a fait 9% aux élections européennes et que, quand on regarde les intentions de vote, s'il devait y avoir maintenant des élections anticipées, le Parti conservateur arrive en 4e position, derrière les brexitaires féroces de Nigel Farage, derrière les Lib Dems pro-européens, etc. Donc on est dans une situation quand même pour le moins ubuesque.
Alors voilà, le décor est planté. Alex Taylor, Sophie Loussouarn, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on va devoir évoquer ce matin. Mais je voudrais peut-être commencer avec ce que je disais tout à l'heure à Marc, c'est-à-dire cette idée peut-être pas tout à fait juste qu'on est revenu finalement 3 ans en arrière. Et puis ensuite, je voudrais vous entendre aussi sur la comparaison entre Boris Johnson et Donald Trump proposée par Marc Semo. Sophie Louswarn, on est revenu en arrière?
On n'a pas progressé depuis le 23 juin 2016. Et en fait, ce Brexit a créé une crise constitutionnelle grave au Royaume-Uni. Elle a divisé ce royaume, elle a divisé les partis politiques et elle a remis en question ce bipartisme ancestral du Royaume-Uni. Et les dirigeants britanniques ont eu à cœur de mettre en application ce Brexit pour entendre la voix populaire qui s'était prononcée pour le Brexit à 51,9%. Mais finalement, le Premier ministre Theresa May n'est pas parvenu à trouver un compromis et elle a ignoré les 48% de Britanniques qui avaient voté pour le maintien. Et donc, le parti est plus divisé que jamais.
Ça, c'est la loi de la démocratie. Hein.
Oui. Il y a en effet un heurt entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Oui. Et le futur Premier ministre devra unir son parti, unir le pays, et on peut se demander si Boris Johnson est à même de mener un gouvernement, de mener à bien les négociations sur le Brexit et d'unir le pays et de ne pas conduire à l'indépendance de l'Écosse.
Vaste programme. Alex Taylor.
Je ne suis pas entièrement d'accord qu'on en est au même point qu'il y a 3 ans. Je crois qu'on a compris des choses. Les Britanniques ont compris quelque chose qu'on ne leur avait pas dit. C'est que le Brexit est un choix assez binaire. Soit vous brexitez, soit vous ne brexitez pas. Theresa May, depuis 3 ans, essaie de leur dire, bon, on va brexiter un peu, mais on va garder certains des avantages, etc. Ça n'a pas marché. Donc, dans la conscience générale, dans les débats, que j'entends pour l'élection du futur Premier ministre, il y a une conscience maintenant comme quoi le Brexit, c'est des choix durs. Soit on Brexit, donc soit on quitte le marché unique, l'union douanière, avec peut-être ces merveilleux avantages brandis chaque fois qu'on lui donne la parole, très rarement parce qu'il refuse de la prendre. Donc Boris Johnson, peut-être avec d'énormes désavantages, parce qu'on quitte, enfin la Grande-Bretagne quitte absolument tous les traités commerciaux. C'est un no deal, ça veut dire ça. C'est-à-dire que pour le moment, la Grande-Bretagne fait du commerce dans le monde à travers d'innombrables traités qui sont signés avec l'Union européenne. S'il y a un no deal pour le Halloween, la Grande-Bretagne se trouve complètement en dehors de tous ces traités, avec tout à renégocier. Alors, moi, je veux bien, peut-être on peut négocier des choses absolument formidables, sans doute avec Trump, s'il reste encore longtemps, et si Boris Johnson dure quelques mois, ce qui est peut-être pas évident. Maintenant, les Britanniques, au fur et à mesure qu'on approche d'un nouveau deadline, commencent à se rendre compte que le Brexit, c'est binaire. C'est soit on est dedans, soit on est dehors. Donc ça, ils ont compris. Et depuis 3 ans, ils n'avaient pas compris ça. Mrs. May ne l'avait pas compris.
Donc on a avancé.
Marc Sebo. Vous êtes peut-être injuste avec Theresa May. De fait, la seule solution, c'était un espèce de statut intermédiaire qui a le problème de fond. C'est que vous avez tous les inconvénients de l'Union européenne sans avoir les avantages, à savoir le droit de vote. Si vous avez un statut à la norvégienne ou autre, vous payez, vous subissez les règles de l'Union, la libre circulation, tout ce que vous voulez, et sans aucun désavantage. Mais la question que je vais vous poser, finalement, ce référendum, c'était un référendum consultatif. Il n'avait pas force de loi, il n'était pas contraignant. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est une question très... Je connais en partie la réponse, mais pourquoi finalement, les temps ont changé, les gens ont compris un certain nombre de choses, vous le disiez vous-même, on s'est aperçu qu'il y avait une campagne totalement démagogique, alors pourquoi ne pas tout miser sur le nouveau référendum? Ce qui aurait le mérite de clarifier les choses.
Sophie Louswarn,
oui, alors, c'est un point fondamental. Et d'ailleurs, Boris Johnson n'a pas exclu la possibilité d'organiser un second référendum. Et je crois qu'il serait bon, avant de mettre fin à 46 ans d'histoire commune avec l'Union européenne, qui ont été très bénéfiques pour l'économie britannique, puisqu'en 73, lorsque le Royaume-Uni est entré dans l'Union européenne, elle était le malade de l'Europe. Et que rejoindre l'Union européenne a été un atout considérable pour le Royaume-Uni sur la scène internationale, en matière diplomatique, et le Brexit risquerait d'isoler le Royaume-Uni, de conduire à la désunion du Royaume, éventuellement à ce que l'Irlande du Nord rejoigne l'Irlande, et que l'Écosse demande un second référendum sur l'indépendance, et qu'on se retrouve avec une petite Angleterre. diminuée sur la scène internationale et qui risquerait de perdre son siège au Conseil de sécurité de l'ONU.
On reviendra sur la question de l'Écosse, Alex Taylor. Pourquoi est-ce qu'on ne mise pas tout sur un nouveau référendum?
Moi, bon, vous avez compris, moi je suis profondément pro-européen, je suis devenu français pour échapper à tout ça et ouais, je vous entends.
C'est une solution de bon sens.
Oui, c'est une solution de bon sens pour vous. Mais moi, je passe mon temps à regarder, d'ailleurs, merci le Brexit, parce que la politique britannique n'a jamais été aussi passionnante. Enfin, très franchement, je passe mon temps à regarder les chaînes britanniques et je peux vous dire qu'il y a un fond de, je dirais, 30-35% de Britanniques qui sont fous furieux. Pour le Brexit, vous regardez la moitié. D'ailleurs, le test de la bouilloire. Vous savez, le principal rendez-vous politique de la BBC s'appelle Question Times. Tous les jeudis soirs, ça se déplace de ville en ville. Il y a un public de 300-400 personnes. Il y a toujours 5 panélistes, des politiques et journalistes. Et les 3/4 d'heure sont absorbés par les questions sur le Brexit. Et dès lors qu'ils cessent de parler du Brexit, le wattage électrique augmente parce que les gens quittent la télé. Ça fait de l'audimat. Moi, ça fait 30 ans que je fais des émissions sur l'Europe. On me dit l'Europe n'intéresse personne. Mais là, au moins, dans un pays, depuis 3 ans, l'Europe passionne les gens. Ça fait de l'audimat. Pourquoi on peut pas avoir un référendum tout de suite? Parce que c'est 30% de fous furieux, soutenus par le 80% plus ou moins de la presse qui est pour le Brexit, ne le tolérerait pas. Parce que vous avez Farage dans les coulisses avec son Brexit Party, vu son succès dans les élections, qui serait le premier... parce qu'il est archi-présent dans les émissions politiques à la télévision pour dire. Et deuxième raison, si je peux me permettre, à mon avis, ça c'est un peu ce que je pense, mais un deuxième référendum maintenant ne résoudrait pas du tout le problème du Brexit. Sans doute, face à la peur de sauter par-dessus cette falaise que je vous ai décrite tout à l'heure, il y a quelques Britanniques qui vont changer d'avis. Mais il y a un truc qui s'appelle cognitive bias, le biais cognitif. Une fois qu'on a pris une décision, on est, et on le voit avec les Brexiteurs, on peut leur dire, vous allez perdre votre travail. J'ai vu dans un micro-trottoir l'autre jour, un homme qui disait, je vais perdre mon travail à cause du Brexit, mais je voterai quand même pour le Brexit parce que c'est important. Et on lui dit pourquoi? Il dit, parce que c'est important. Et on lui dit pourquoi? Et ça continue comme ça. Je ne pense pas que maintenant, un deuxième référendum...
Changerait quelque chose.
Changerait quelque chose. Ce serait sans doute 52... pour rester et 48 pour remain. Là, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est à long terme. Un deuxième référendum d'ici quelques années. Et ils en seraient capables parce qu'il faut pas oublier que le premier référendum sur le marché commun, contrairement à ce qu'on croit en France, c'était pas du tout pour savoir s'ils voulaient rentrer.
Moi, non, vous avez parlé. C'était en 75.
Ils étaient déjà dedans depuis 73. 18 mois après, j'étais là. Je vivais en Grande-Bretagne alors que c'était l'homme malade de l'Europe. Vous avez raison de le dire. Ils ont voté, en fait, pour rester à 66%. Donc là, il n'y a pas de doute. Même Mrs. Thatcher a fait campagne avec son pull avec tous les drapeaux européens, etc. Donc, à mon avis, comme ce référendum est le reflet à l'opposé de ce qui s'est passé en 75, il faudrait un deuxième référendum une fois qu'ils sont dehors et qu'ils ont vu ce que c'est dans le monde moderne d'être un pays de 60 millions, certes avec un glorieux passé, mais sans aucun contrat commercial. Là, peut-être, d'ici 3-4 ans, un nouveau référendum mettra fin à ce débat.
Mais d'ici là?
D'ici là, c'est le problème.
Alors justement, d'ici là, regardons un tout petit peu là ce qui va se passer, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs, on est dans un processus de désignation du prochain chef de l'exécutif. Je disais, il y a 10 candidats en liste. En fait, maintenant, en liste, pardon, il y en a 2 qui ont déjà été éliminés. 3 qui ont été éliminés, pardon. Il reste Boris Johnson, donc, qui est arrivé en tête avec 114 voix, suivi par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, pardon, qui a eu 43 voix, le ministre de l'Environnement, Michael Gove, 37 voix, l'ex-ministre du Brexit Dominic Raab qui a eu 27 voix, et puis ensuite le ministre de l'Intérieur Sajid Javid, Matt Hancock, Rory
Stewart, qui est peut-être en train de se désister ce matin, d'ailleurs. Matt Hancock, c'est pas sûr.
Est-ce que c'est plié? Est-ce que Boris Johnson va être effectivement le chef de l'exécutif, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'il en reste 2, ce sont les militants qui décide, et donc peut-être que là, il faut poser la question de savoir si véritablement il a le soutien de ses militants, et puis ensuite on verra ce qu'il pourra faire. Mais est-ce que Boris Johnson va être le prochain Premier ministre, Sophie Loussoir?
Alors, il est le grand favori, mais tout est encore possible. Alors, on connaîtra les deux candidats sélectionnés le 20 juin, et le 22 juillet, nous saurons qui sera le futur Premier ministre. Alors, d'ici là, les Britanniques essayent de mettre la pression sur Boris Johnson pour qu'il accepte de prendre part au débat télévisé, ce qu'il refuse, parce qu'il refuse de faire un faux pas, de se discréditer. Et on sait qu'avec lui, personnalité très controversée, tout est possible. Il était quand même le grand favori déjà en 2016 pour remplacer David Cameron qui avait démissionné au lendemain de sa défaite lors du référendum du 23 juin. Et Michael Gove lui a porté un coup fatal en disant qu'il était incapable de devenir Premier ministre. Alors aujourd'hui, cette année, lui sera-t-elle plus propice? Il est en effet le grand favori parmi les militants. Mais Jeremy Hunt, est parvenu. Jeremy Hunt est parvenu à remporter beaucoup de soutien de membres du gouvernement, notamment Amber Rudd et Greg Hands. Il apparaît comme une personnalité crédible qui a une expérience gouvernementale tout à fait positive comme ministre de la Santé et comme ministre des Affaires étrangères, où il a été excellent et où il a fait un sans faute, alors que Boris Johnson a été très populaire comme maire de Londres pendant 8 ans. Mais évidemment, ses années au Foreign Office ont été très controversées.
Donc,
et
tout,
il
n'est
a fait,
joué.
Tout n'est pas tout joué. N'est pas joué, tout n'est pas joué, tout est possible.
Le problème de Boris Johnson, c'est que il a pris la dernière fois où il s'est exprimé, et là, il refuse de prendre la parole. Il a répondu aux 6 questions que des journalistes sélectionnés lui avaient posées lors de sa conférence de lancement la semaine dernière. Et sinon, contrairement à tous les autres, c'est comme un défilé de Miss hein, dans les médias britanniques en ce moment. Tous les autres candidats, on les entend, mais absolument partout, disons Big Band de l'un de l'autre. Mais Boris Johnson refuse et il n'est même pas sûr, comme vous avez dit, qu'il participe mardi prochain à un grand débat où, soi-disant, tous les candidats sont censés donner leur point de vue. Et pour le moment, tous ses conseillers disent faut pas y aller, parce qu'on a tellement peur qu'il commette... parce qu'il est complètement incontrôlable. Sinon, pourquoi on ne le lâcherait pas pour qu'il recueille les suffrages? Il y a des choses, par exemple, qui sortent de plus en plus. Par exemple, ça on ne le sait pas, mais il y a un enregistrement assez terrifiant de Boris Johnson d'un coup de fil il y a quelques années, certes, mais ça montre un peu le personnage de l'homme. C'est un de ses amis qui a été beaucoup critiqué par un journaliste, et cet ami, un enregistrement, on l'entend, appelle Boris Johnson en disant « Je voudrais le faire tabasser. Est-ce que tu es OK pour me donner son numéro de téléphone ?» Vous me regardez tous avec des yeux, ça existe, cherchez-le sur YouTube.
Hein. Non,
Darius Guppy et Boris Johnson hésitent beaucoup, c'est vrai, il dit « Tu vas pas lui faire beaucoup de mal. » Et le type dit « Non, je te promets, c'est juste quelques côtes cassées, mais il faut vraiment qu'on le tabasse. » Et Boris Johnson finit par donner le numéro de téléphone. Je vous promets, c'est sur YouTube, vous pouvez l'entendre. Mais oui, vous me regardez tous. Darius Guppy, G-U-P-Y, YouTube, Boris Johnson. Vous avez l'enregistrement qui est passé à la BBC. C'est un truc qui a été enregistré il y a 8-9 ans. Donc, des trucs comme ça commencent à sortir. À nouveau, c'est déjà sorti il y a quelques années. Et quand on sort ça, on peut se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment quelqu'un, vu en plus que vous pouvez trouver aussi sur YouTube, si vous tapez Boris Johnson, des choses il y a 10 ans, il disait plus combien de l'Union Européenne, du fait qu'il fallait absolument pas sortir du marché unique.
Maintenant, ouais, c'est pas le premier à changer d'avis.
Oui, mais quand même.
Allez, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de caricaturistes, de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un sujet en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour.
Et alors,
à tous.
Ce matin, une très belle caricature du Parti conservateur.
Une jolie caricature, quoique peu flatteuse, mais c'est un peu le principe, puisque c'est sous les traits d'un vieux pigeon à moitié dégarni que Jeb Bertrams a choisi de représenter le Parti conservateur. Jeb Bertrams, c'est un caricaturiste néerlandais dont on a déjà parlé ici. Il suit régulièrement l'actualité britannique avec laquelle il est rarement tendre, mais souvent très drôle. Alors, le voilà-t-il en question. D'ailleurs, on ne sait au fond si c'est un pigeon, un coucou, beaucoup ou une sorte d'espèce rare. C'est en tout cas un spécimen mal en point. On le voit, l'œil terne et vaguement agressif. Le cou décharné, les ailes abîmées et cette inscription « Tories » sur ce qu'il lui reste de plumage. L'animal, malgré tout, semble conserver quelques ressources et même croire encore en l'avenir puisqu'il est en train de couver sa prochaine nichée. Alors que sortira-t-il cette fois-ci du nid des Tories ? Ce grand vieux parti qui a, depuis 1834, eh bien, fourni un certain nombre de dirigeants au royaume, eh bien, entre les brindilles de son nid de fortune, on distingue quelques œufs et c'est plutôt inquiétant, tout simplement parce que ce ne sont pas des œufs que l'oiseau couve, mais des grenades. Oui, sur chacune d'elles, eh bien, un nom, Rab, Johnson, Gove, autant de prétendants au poste de dirigeant du parti et accessoirement du pays. Mais pourquoi Bertrams a-t-il choisi cette image de bombe à retardement ? Eh bien, peut-être n'y a-t-il qu'à regarder les premières déclarations incendiaires des uns et des autres pour comprendre la surenchère sur le Brexit qui rappelle la campagne de 2016 avant le vote fatidique. Ou bien peut-être Bertrams évoque-t-il un autre cataclysme à venir pour le vieux parti, celui de son implosion, du fait des dissensions internes. Tout d'abord, il en faudra du temps pour digérer les coups bas et les chausse-trappes infligés à la première ministre sortante par son propre camp. Mais le plus grand danger pourrait venir d'ailleurs. Bien qu'il soit majoritaire à la Chambre, les conservateurs, vous le rappeliez, sont arrivés cinquièmes aux élections européennes. Les Lib Dems leur font de l'ombre, tandis que le parti du Brexit chasse sur leurs terres. Voilà qui rappelle les déboires d'un animal similaire en France. Notons enfin que cet oiseau a choisi une drôle de branche pour construire son nid. Elle semble avoir été coupée nette, comme si on venait de lui donner un coup de hache. On pourrait même dire que la maison Tories a échappé de peu à une sacrée chute. Mais pour combien de temps encore ?
Et la prochaine fois, au prochain coup de hache, c'est carrément la tête qui tombe. Hein, Mélanie Chalandon, merci beaucoup. Évidemment, ce dessin, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, le fil Twitter de Culture Monde, le site de France Culture. Réaction Sophie Loussouarn et Alex Taylor autour de ce dessin-là, parce qu'effectivement, ce qu'il y a au cœur de ça, c'est l'avenir du Parti conservateur britannique. Effectivement, arrivé cinquième lors des dernières élections législatives, quand on regarde les sondages, c'est pas fameux. Ils arrivent même à arriver derrière les travaillistes, qui est quand même une performance. On a les Lib Dems, effectivement, qui sont arrivés deuxième, qui deviennent une force politique au centre particulièrement forte. Est-ce que la droite conservatrice britannique est en train de s'effondrer, là ?
Alors, ça a été une défaite considérable pour le Parti conservateur. C'était également une défaite pour Theresa May et la preuve qu'elle n'était pas parvenue à unir le parti. Je crois que cette caricature met en lumière les grandes fractures au sein même du Parti conservateur entre un Boris Johnson qui est souverainiste, très proche du Brexit Party de Nigel Farage, avec qui il a fait campagne d'ailleurs au moment du référendum sur le Brexit en 2016, et Michael Gove, qui pourrait peut-être unir les Britanniques et obtenir le soutien des partisans du maintien, et Dominic Raab qui lui prorogerait le Parlement et qui amènerait même la reine à intervenir, alors que elle n'est jamais intervenue dans la vie politique du Royaume-Uni, et cela créerait une crise constitutionnelle supplémentaire. Johnson avait démissionné en juillet 2018 au moment de la présentation du plan de Chequers. Raab a démissionné en novembre 2018 au moment du vote à la Chambre des communes. Et Michael Gove est toujours resté loyal à Theresa May. Mais parviendra-t-il à obtenir le soutien des députés? Le grand absent dans cette caricature me semble être Jeremy Hunt, qui est une étoile montante.
Oui, il est peut-être derrière, parce que vous voyez, ça fait tout le tour du nid, hein, les grenades. Alex Taylor, sur l'avenir du Parti conservateur britannique, est-ce qu'on est en train d'assister à ce qu'on a vu un petit peu, nous, ici en France, c'est-à-dire l'effondrement de la droite de gouvernement, et puis l'apparition, l'émergence d'une force au centre-là qui pourrait peut-être durablement s'implanter?
Clairement, puisque le Brexit, il n'y a que ça. Je veux dire, depuis 3 ans, les Britanniques ne parlent pas d'autre chose que le Brexit. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe. D'ailleurs, si on a mis sur le bus 350 millions par semaine dépensés dans les hôpitaux, c'est parce qu'il y a un problème dans les hôpitaux en Grande-Bretagne. Si vous voulez, c'est la fin, pour moi, d'une espèce de pièce de Shakespeare. Et je n'arrive toujours pas au bout de 3 ans de savoir si c'est une tragédie ou une comédie comme les meilleures pièces de Shakespeare, parce que vous aviez à la tête
des deux parties. Vous avez à la tête des conservateurs quelqu'un qui avait plaidé pour rester dans l'Union européenne et qui a changé d'avis en quelques semaines parce qu'elle voulait devenir première ministre. Et en face, vous avez quelqu'un qui, depuis 40 ans, Jeremy Corbyn, leader des travaillistes, moi, j'ai quitté mon pays au début des années 80, était déjà en train de maugréer, de protester, et surtout de voter tout ce qui avait le mot Europe dedans, dans mes communes, qui est sans doute beaucoup plus brexitant même que Boris Johnson, mais qui est obligé de faire semblant d'être pour le Remain, parce que la plupart de ses députés et encore de plus en plus de son électorat sont pour le Remain. Donc vous avez deux personnes qui jouent des personnages et ça correspond pas du tout à leurs convictions. Mmh. Comment voulez-vous, avec une telle chose, sortir une solution logique et convaincante? Et je suis d'accord avec vous que le Brexit, les questions identitaires ont pris le dessus. C'est un peu comme en France. Moi, je pense que la France a quelques années d'avance par rapport à ça, parce qu'en gros, en France, maintenant, aux dernières élections, vous aviez un parti pro-européen internationaliste et un parti identitaire beaucoup plus français qui se sont battus. Voilà. Et qui relègue les autres partis anciennement très, très puissants. C'est en train de se passer en Grande-Bretagne. Travailliste et conservateur. Et juste une dernière chose que j'aimerais dire aux élections européennes, ce qu'on dit jamais, parce que c'est toujours carte postale de chaque pays. C'est comme le concours aux visions de la chanson. Il y a tellement de pays en 5 secondes par pays. Les victoires du parti du Brexit. Si vous éliminez le parti conservateur et travailliste, qui n'ont pas eu beaucoup de votes dans les élections européennes.
14% et 9%, voilà, respectivement.
Et qui sont tous les deux rivés, divisés sur le Brexit. Si vous les éliminez et vous comptez les votes pour les partis clairement pour le Brexit, vous avez 35%. Mais si vous prenez aussi les partis clairement contre le Brexit, vous avez 40%. Donc, c'est quand même nuancé.
Marc Semo et ensuite Sophie Lussoine, j'ai vu que vous vouliez réagir. Marc Semo.
Vous évoquiez une pièce de Shakespeare. S'il fallait donner un titre, ça serait laquelle? Beaucoup de bruit pour rien.
Beaucoup de bruit pour rien, oui. Oui, vous avez trouvé. Ou Songe d'une nuit d'été. Songe d'une nuit d'été.
Sophie Lussoine.
Ce que je voudrais dire à propos des élections européennes, c'est que ce qui explique la percée et la victoire du parti du Brexit le 23 mai 2019, c'est le mode de scrutin aux élections européennes, la proportionnelle. Si nous avions une élection législative au Royaume-Uni aujourd'hui, avec le scrutin majoritaire uninominal à un tour, ce serait finalement toujours les deux partis, le parti conservateur et le parti travailliste, qui arriveraient en tête, je crois.
Moi,
et
sûr.
Bien devant le micro, sûr. Devant le micro, Sophie Lussoine.
Et d'autre part, je voudrais ajouter un point sur Jeremy Corbyn, qui a toujours été eurosceptique et qui, en 1975, lors du premier référendum, avait voté contre l'Union européenne.
Comme la plupart des travaillistes.
Oui, et qui aujourd'hui a une position très ambiguë, ne veut pas promettre un second référendum, car il a peur de s'aliéner son électorat de la classe ouvrière qui a voté pour le Brexit, et il n'entend pas l'autre aile du Parti travailliste qui appelle de ses voeux un second référendum et qui veut à tout prix
majoritaire,
rester...
Majoritaire, faut quand même le
exactement.
Préciser.
Et il y a un divorce au sein du Parti travailliste entre le Parti travailliste parlementaire et les militants du terrain qui, eux, sont pour le Brexit.
Mais alors, justement, compte tenu de ces divergences, de cet éclatement à l'intérieur même des partis, à la fois au sein du Parti conservateur, dans le Parti travailliste, est-ce que, précisément, la stratégie du prochain Premier ministre, quel qu'il soit, ne pourrait pas justement de dépasser les clivages et d'aller essayer de trouver au fond un appui transpartisan? Parce que ce que disent beaucoup d'observateurs aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est que la grosse erreur de Theresa May, c'est de s'être appuyée seulement sur le Parti conservateur et de ne pas avoir cherché un accord au fond transpartisan. Peut-être que là, la leçon pourrait être tirée et que compte tenu et de cette leçon et de l'éclatement à l'intérieur même des partis, il y aurait quelque chose à construire. Et pourquoi pas même d'ailleurs, j'en sais rien, mais récupérer l'accord de Theresa May et le faire passer avec cette approche-là, cette approche transpartisane. Pourquoi pas, on pourrait l'imaginer.
Alors Mike Hogove veut renégocier l'accord de Theresa May. Les 27 pays de l'Union européenne on ne veulent pas.
Oui, mais jusqu'à ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'ils acceptent. À chaque fois, c'est la même chose. Hein.
Ensuite, Jeremy Hunt a déclaré qu'un Brexit sans accord serait un suicide politique. Donc lui essaiera de trouver un accord. Et Boris Johnson jouera sur tous les tableaux. s'il devient Premier ministre.
Bah, il ne pourra pas, parce qu'il a très peu de temps, parce qu'il devient Premier ministre le 22 juillet.
Oui, oui.
Et donc, avec l'été où tout le monde s'en va surtout en Europe. Et d'ailleurs, avec qui discuter? S'il veut rediscuter l'accord, ils sont tous en train de quitter leur poste. Donc, on revient quoi, à la rentrée. Mot d'ailleurs intraduisible en anglais, parce que le concept de la rentrée n'existe pas. C'est peut-être ça qu'ils n'ont pas compris avec l'Europe, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il n'y a personne. Donc on évite en octobre. Donc on ne peut pas rouvrir cet accord. Vous avez vu tous les Européens. Parce que, en fait, tout ça, ça part d'une espèce d'exceptionnalisme britannique. Parce que je dis dans mon bouquin, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi la plupart de mes ex-compatriotes ont voté pour ça, ont fait ce choix. Et c'est enfin une vaste crise d'identité purement britannique. Ce peuple qui a eu des victoires dans le passé, qui quelque part a eu le malheur d'avoir été du bon côté de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, ils ne s'en sortent pas. Le Brexit, pour moi, c'est l'apogée de cette crise d'identité qu'ont les Britanniques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Une crise d'identité britannique ou anglaise ?
Anglaise, plus précisément. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, c'est la grosse majorité des voix. Donc, c'est eux qui ont entraîné la misérable Écosse et l'Irlande du Nord dans cette galère. Je vous pose juste une question pour prouver mon point.
Royaume des Unis, parce que les Écossais veulent à tout prix rester dans l'Union européenne, l'Irlande du Nord également, ce qui risquerait de conduire... Non, pas moins sûr. L'Irlande du Nord risquerait de rejoindre l'Irlande, et à ce moment-là, nous nous retrouverions avec une petite Angleterre qui ne jouerait pas le même rôle sur la scène internationale.
Je vous pose une
question, par exemple.
Quelle est la sitcom la plus regardée à la télévision britannique depuis 60 ans?
Je ne sais pas.
Les gens me disent généralement Monty Python, Benny Hill,
le Brexit.
Mr Bean. Non, c'est une sitcom que vous ne connaissez pas du tout en France, mais je vous le conseille parce que ça dit tout sur le Brexit. Ça s'appelle Dad's Army, l'armée de papa. C'est un truc inconnu, mais qui passe en prime time le samedi soir à 20h30 sur BBC Two en ce moment. Vous regardez le générique de cette émission, vous avez tout compris. C'est sur la vieille garde anglaise qui est restée pour défendre l'Angleterre contre l'envahisseur. C'est très comique, c'est très drôle, sinon ça passerait pas depuis 60 ans. Mais ça explique la nostalgie de ce pays qui a une véritable crise d'identité toujours, et le Brexit c'est l'apogée de ça, mais je crains pour le futur, surtout quand la reine ne sera plus là. On ne dit jamais, mais la reine, on l'a vu la semaine dernière pour le D-Day, est très importante pour l'identité britannique. Quand elle sera plus là, les Britanniques se rendront compte qu'ils sont plus tout à fait ce grand peuple, et qu'ils ont peut-être fait une erreur de ne pas se définir comme européens.
Own your shit, you whiny Brexit arseholes. Own your shit, and look at what you've done. It's your Brexit, as you love to remind us. You own it, cause after all you won. Why are you still calling us Ramonas when it's you that's moaning now? Oh, but how, you've blown it. Own your shit. Who was it that buggered up the country? Who was it wrote the lies upon the bus? Who was it slipped through the negotiations? Here's a hint, it was a bloody us.
Alors, moi je connaissais pas votre série, Alex Taylor, mais vous connaissez pas ce morceau On Your Shit de Mitch Benn, c'est évidemment sur le Brexit. Merci beaucoup. Merci infiniment. On mettra ça en référence évidemment sur le site de Culture Monde. Un grand merci à vous, Alex Taylor, je rappelle, Brexit, l'autopsie d'une illusion chez Jean-Claude Lattès, Sophie Lousworn, David Cameron, un conservateur du 21e siècle, et très bientôt Fame and Faces.
Exactement, pour changer du Brexit. Les femmes dans la peinture britannique
très
au 18e.
Bien. Merci infiniment. Évidemment, on aura l'occasion très bientôt de reparler du Brexit. C'est une série qui dure et qui va durer. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors visiblement, il se passe quelque chose que les économistes les plus qualifiés ne savent pas expliquer. Une fois de plus, de quoi s'agit-il ?
La dernière fois que ces distingués professeurs avouaient leur incompréhension, c'était lors de l'éclatement de la crise des subprimes aux États-Unis. Vous vous souvenez ? Pourquoi personne n'a-t-il rien vu venir ? Demandait la reine d'Angleterre en novembre 2008 à un prestigieux aéropage assemblé en son honneur à la London School of Economics. Eh bien, cette fois encore, personne n'a rien vu venir, mais il s'agit d'une bonne et non pas d'une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les États-Unis, le cœur de notre système économique, entament tout juste leur 10e année d'expansion consécutive. C'est du jamais vu dans un pays où les cycles économiques sont réputés courts. La croissance, en effet, est brillante, 3,1% en rythme annuel, bien supérieure à celle de l'Europe ou du Japon. Trump tente de s'en attribuer les mérites. Cela le pousse à se montrer agressif sur la scène internationale. Mais comment expliquer cette croissance inhabituellement persistante? Elle est alimentée, comme le souligne Mohamed El-Erian, par des politiques monétaires impensables auparavant. La Fed maintient des taux d'intérêt très bas, entre 2 et 2,5%, ce qui fait redouter à la plupart des économistes qu'elle se trouve désarmée, la Fed, en fin de cycle face à la prochaine crise. Car pour enrayer les crises aux États-Unis, il faut baisser les taux de 5%. Il n'y a donc pas de marge. C'est pourquoi, selon Barry Eichengreen, les banques centrales seraient alors incitées à recourir à nouveau aux fameuses mesures non conventionnelles, le quantitative easing. Cela a consisté, il y a 10 ans, pour la Fed ou la BCE, à truffer leur bilan d'actifs douteux, comme ces titres adossés à des créances hypothécaires ou des obligations d'entreprise. Mais cela a entraîné des inquiétudes au Congrès de Washington. Certains élus ont réclamé que le pouvoir politique reprenne le contrôle de ces banques centrales décidément imprudentes. L'indépendance de la Fed pourrait donc être sérieusement compromise si elle devait à nouveau recourir à ses moyens de dernier recours. Mais d'autres critiquent en Europe cette fois. Estime que le rachat par la BCE de dettes émises par les États a entraîné une baisse artificielle des taux auxquels ceux-ci doivent rembourser. Dans une économie normale, lorsque les gouvernements contractent des emprunts supplémentaires, le coût de ces derniers augmente et cela suffit à les dissuader, d'exagérer. Mais lorsque les banques centrales se comportent en acheteurs de dernier ressort des obligations des États, comme l'a fait la Fed, ceux-ci ne se montre plus tellement retenu par rien.
C'est ce qu'on appelle, Brice, l'aléa moral quand on n'a pas à supporter les conséquences de ses propres décisions. On est incité à prendre des risques excessifs en les faisant assumer par d'autres.
Et c'est ce qui caractérise certains États européens tombés entre les mains de leaders populistes comme l'Italie, selon Eichengreen. Désireux d'être réélus, ces dirigeants ignorent les contraintes budgétaires. Ils font de somptueux cadeaux à leurs électeurs sous forme d'allègements d'impôts ou de dépenses publiques supplémentaires, ou bien les deux. Dans un premier temps, l'effet politique euphorique est garanti. L'électeur est content. Il ne voit pas que, comme disent les économistes, quelque chose qui ne peut pas continuer indéfiniment finit un beau jour par s'arrêter. À long terme, ces États connaîtront au choix soit le défaut sur une partie ou la totalité de leurs dettes, la banqueroute, avec son cortège de malheurs sociaux, fonctionnaires et pensions de retraite non payées pendant des mois, soit la monétisation des dettes et donc une ruineuse inflation. Si les leaders populistes mettent en œuvre leur politique fiscale irresponsable, les marchés financiers les sanctionneront, écrit Eichengreen. On a le sentiment que cet avertissement est lancé pas seulement à Salvini, mais aussi à Trump, qui n'est pas nommé dans ce papier de Barry Eichengreen, qui est donc, je rappelle, professeur d'économie à Berkeley. Cette étrange robustesse de l'économie américaine, selon un autre économiste, Todd Buchholz, n'a rien à voir avec l'ère Trump, mais à la conjonction inhabituelle de taux d'intérêt très bas et d'inflation faible. Pour la première fois depuis des décennies de stagnation, les salaires des Américains ont recommencé à progresser. Et ils le doivent à la situation de plein emploi que connaissent aujourd'hui les États-Unis. Lorsqu'un pays connaît le plein emploi, eh bien les salaires montent automatiquement, parce que ce ne sont plus les employés qui doivent supplier les patrons de les garder, mais les patrons qui doivent faire des efforts pour conserver leurs salariés ou bien même en attirer de nouveaux. D'où un risque d'inflation. En outre, le consommateur américain se voit en ce moment proposer l'achat de voitures neuves assorties de prêts à 0%. Plus intéressant encore, les entreprises s'équipent en machines-outils ou en robots grâce à cette abondance de crédit. Cela va les rendre plus compétitives à l'avenir. En réalité, estime Buchholz, le sale petit secret de l'économie américaine, c'est qu'elle prospère au détriment des autres. Si elle dépendait davantage de ses exportations, elle devrait s'en inquiéter, mais tel n'est pas le cas. Il ne représente que 12% de son PIB, et avec Trump et ses guerres commerciales, ce sera probablement encore moins à l'avenir.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Très bon week-end et à lundi Brice.